Bien, non, non. Mais, bien, vous savez qu'il faut plutôt applaudir après, parce que sinon c'est un investissement, il y a une prise de risque, vous n'en savez rien. Première leçon d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a du mal à démarrer à l'heure. Non, je ne le dis pas du tout. Salut Jérôme. Je pense que s'il y a aujourd'hui un changement de culture, tant au niveau des élus, c'est de faire en sorte que si on veut être décontracté, on démarre les réunions à l'heure. Je ne le dis pas du tout pour... Mais simplement parce que moi, quand j'ai démarré maire il y a 30 ou 40 ans, j'ai surpris tout le monde en démarrant à l'heure, ce qui fait qu'au début, j'avais 40% de personnes absentes, et après, rapidement, ça s'est terminé. Je me souviens aussi que quand j'étais ministre, j'ai pris comme habitude d'arriver à l'heure, et la première fois où je suis allé à une manifestation officielle, le colonel de gendarmerie est arrivé après moi. Et donc après, c'était la panique. Donc je crois qu'il y a une réflexion à mener. Bien, d'abord, merci à Mme Ropitaille et à vous-même de m'avoir invité. En réalité, je voudrais attirer votre attention, puisque vous êtes en train de réfléchir sur ce qui s'est passé après Charlie. En réalité, attention à ne pas tomber dans l'illusion, de ne pas se poser les bonnes questions et de ne jamais oublier que Charlie était le révélateur de quelque chose, pas le début de quelque chose. Et un certain nombre de questions sur lesquelles on peut s'interroger, c'est est-ce que s'il n'y avait pas eu Charlie, s'il n'y avait eu que l'attentat sur Hyper-Karcher, y aurait-il eu une telle émotion, non pas nationale, mais mondiale? La réponse est non. Et donc, on peut s'interroger de savoir pourquoi y a-t-il eu cette telle émotion à l'échelon international. La seconde, c'est est-ce que nous ne devrions pas nous interroger sur le fait que les auteurs de l'attentat sont passés par des parcours républicains et donc on ne peut pas s'exonérer de l'idée de savoir quelle est notre part de responsabilité lorsqu'après avoir offert un parcours républicain, on arrive au résultat d'un passage à l'acte qui a tendance à vouloir détruire quelqu'un qui représente le système. Et je livre à votre réflexion une phrase qui m'avait beaucoup frappé par un délégué du médiateur lorsque j'étais médiateur de la République. Et lorsque je les interrogeais sur leur permanence, ils m'avaient délivré un verbatim qui consistait à dire, notamment sur quelqu'un qui était au chômage, « Quand je suis dans cette situation, je n'envisage que deux solutions, me détruire ou détruire le système. » Dernier point avant de démarrer, c'est que j'ai toujours été fasciné par vous êtes obnubilé, votre formation est orientée sur la maîtrise du système, sur le contrôle du système, sur la gestion du système, sur l'évaluation du système, sur un plan budgétaire, financier, moyen. Personne n'attire votre attention sur les effets comportementaux des politiques publiques. Et le fait qu'aujourd'hui, on est dans un moment absolument fascinant, que dans le rideau d'insouciance derrière lequel nous nous abritions, et qui fait que quand on était curé, les fidèles obéissaient. Quand on était secrétaire d'un parti, les militants obéissaient. Et quand on était titulaire d'une autorité publique, les citoyens obéissaient. À aujourd'hui, une interpellation en disant comment se fait-il qu'ils osent même ne pas respecter les règles et avoir un comportement qui n'est pas conforme à la norme. On a cette interrogation légitime avec nos enfants, qui de plus en plus contestent, construisent, n'obéissent plus, et c'est assez formidable, avec des écoliers et avec des citoyens. Et nous devons être attentifs à la question qui nous a beaucoup interpellés, qui aujourd'hui est en train de remonter à toute vitesse au travers du 11 janvier, et de la COP21, c'est que toute notre philosophie occidentale, qui était basée sur la pensée de Descartes, « Je domine la nature, je suis le maître de la nature », est en train de se déchirer, et que l'on prend en pleine poire la fragilité de la nature et l'obligation de la respecter. Mais que le 11 janvier est en train de nous amener en pleine figure la fragilité humaine. Or, c'est une extraordinaire opportunité. On n'accorde de la valeur qu'à ce que l'on a peur de perdre. Et on accorde du prix qu'à ce que l'on a envie de garder. La fragilité d'un amour, la fragilité d'un emploi, la fragilité d'un État, d'une entreprise. Et donc, il y a aujourd'hui une formidable opportunité politique à remettre ce qui ne devrait jamais cesser d'être au cœur des politiques publiques, un, le respect de notre environnement et de la nature, et le respect de la personne humaine. Or, dans toute notre civilisation et notre structure administrative, on a géré des dossiers, on n'a pas géré des personnes, on a compensé des handicaps, on n'accompagne pas les personnes à surmonter des handicaps. Et dans cette extraordinaire révolution technologique que nous sommes en train de vivre, pour la première fois de l'histoire, Einstein avait attiré notre attention sur le fait que quand l'homme inventera des machines capables de dépasser son entendement, il deviendra idiot. C'est-à-dire que le monde dans lequel vous allez rentrer est un monde assez fascinant, qui est une brutale rupture technologique. Après avoir passé des décennies, des siècles et des siècles à améliorer la capacité physique, on est en train d'inventer des machines aujourd'hui qui dépassent largement la capacité des cerveaux au point que la rupture au temps et à l'espace va complètement se modifier, puisque maintenant les algorithmes sont capables d'aller 100 fois plus vite que le traitement. Google est en train de mettre en place un système d'analyse des cancers. Confrontés aux meilleurs cancérologues, ils en font 100 fois plus qu'un trader haute fréquence fait 27 000 opérations par seconde. Et donc, on voit bien que votre rôle à vous risque d'être au niveau des territoires, non pas un détenteur de pouvoir. Et c'est vrai qu'en France, on adore la jouissance du pouvoir. Mais en réalité, une inversion totale des choses, puisque pour la première fois de l'histoire, dans cette révolution technologique, l'illusion du politique qui croit qu'il maîtrise un territoire, un prince, une religion, un État, fait qu'aujourd'hui, plus personne ne maîtrise la circulation des capitaux, plus personne ne maîtrise la circulation des idées, plus personne ne maîtrise la circulation des marchandises, et plus personne ne maîtrise la circulation des hommes. Et l'on voit bien que l'important, ce n'est pas de créer une puissance illusoire d'un territoire par son poids, par son budget, c'est l'attractivité d'un territoire. Qu'est-ce qui fait que les jeunes du monde entier aient envie d'apprendre chez moi, que les capitaux du monde entier aient envie d'investir chez moi, etc., etc. Le deuxième élément, c'est qu'on rentre dans une économie cérébrale. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas le contrôle, c'est la connexion. Il peut y avoir des AVC territoriaux, il peut y avoir des infarctus territoriaux, mais le monde de demain sera un monde de la connectique. Mais en même temps, tout contrat social nécessite un contrat humain. Et que paradoxalement, nous sommes dans une perspective incroyable de la société de l'intelligence et dans l'innovation, dans lequel les pouvoirs publics ne vont pas devoir contrôler mais réguler, et dans lequel le changement culturel majeur, ce n'est pas de sanctionner les échecs mais de valoriser les talents. Ça veut dire que nous sommes à la veille d'une formidable révolution culturelle en France, qui consiste à dire que l'État central qui croit tout contrôler va complètement exploser. La CIA vient d'ailleurs de remettre un rapport à Obama en disant « Mais est-ce que demain la régulation du monde se fera toujours par les États-nations ? Ou est-ce que se fera par les multinationales ou les mégalopoles ?» Et l'Europe a aussi rendu un avis en disant « Est-ce que le G20 ne devrait pas être G20 plus C30 plus C40 » c'est-à-dire les 20 chefs d'État les plus puissants, les 30 chefs d'entreprise des entreprises multinationales et les 40. Et c'est assez fascinant parce que l'on voit bien que si l'atome, par la bombe atomique, a rendu la guerre impossible, les données, le numérique, rend la paix impossible. Et que vous allez avoir devant vous des schémas politiques assez extraordinaires. Il ne faut pas posséder la bombe atomique, il faut posséder les banques de données. Et que dans le continent numérique qui vient de se mettre en place, 80% sont américains, 20% sont chinois, et que l'Europe n'a pas encore compris qu'elle devait se doter d'un système d'exploitation, de maîtrise des données, et que les vrais débats et les vraies batailles ne sont pas des batailles administratives, ne sont pas des batailles de décentralisation. C'est les batailles que livrent aujourd'hui les Américains avec l'Europe et l'Asie sur la norme. Si les Américains arrivent à créer un deal avec le Pacifique, les normes américaines et pacifiques dominerons le monde. Et la bataille juridique, puisque dans le traité européen, on est en train d'avoir une volonté américaine de faire en sorte que les litiges des entreprises, lorsqu'un État modifiera sa fiscalité et modifiera ses règles sociales, il devrait être à même, devant un tribunal américain, de pouvoir réclamer la baisse de profitabilité des actionnaires de cette entreprise. Donc on voit bien que les batailles que l'on voit médiatisées, qui obnubilent notre attention, les plus dangereuses sont celles qu'on ne voit pas. Et qu'aujourd'hui, la régulation du monde, la vraie question, c'est qui régule le monde, qui dominera le monde. Or aujourd'hui, le numérique, par définition, amène la radicalité et amène le monopole. Google, c'est 80% du marché européen. Si Google était en Europe, il serait limité par la loi anti-concurrence à 30%. Donc vous êtes dans un moment totalement fascinant, parce que si l'on vous demande de garder vos lunettes territoriales, si l'on vous demande de garder vos lunettes de pouvoir du court terme et de l'obéissance du citoyen, vous allez peut-être faire une carrière sympathique, mais complètement décalée par rapport à ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est que nous avons devant nous des risques de rupture absolument majeurs, dans lesquels la régulation publique est plus nécessaire que jamais. Je rencontrais il y a un mois ou un mois et demi à Genève M. et Mme Schwab, qui sont les fondateurs de Davos, dont tout le monde pense que c'est le temple de l'économie libérale, etc. Pas du tout, c'est un ONG maintenant reconnu, capable d'analyser les risques du monde. Et lorsque je leur posais la question en disant « quel est le risque numéro un du monde actuel ?», ils me répondaient « ça n'est pas la guerre, ça n'est pas le terrorisme, c'est la dislocation sociale ». Quand vous avez 60% des Américains qui ont peur de ne pas pouvoir faire face à une dépense imprévue de $400, il y a un risque de dislocation sociale. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, il va falloir qu'au niveau des territoires et de l'évaluation des territoires, on essaie aussi de déchirer notre réseau d'hypocrisie. Qui croit encore aujourd'hui à la mixité sociale ? Formidable honneur. C'est la cohabitation des différences sociales. C'est dans les mêmes quartiers que se concentrent les taux d'échec le plus élevés, etc., etc. Or, on voit bien, les Américains ont indiqué cela, il y a soit la théorie de l'underclass, quartier abandonné, soit la théorie de la contagion, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain niveau de concentration de taux d'échec, scolaire, revenus, précarité, vous avez un phénomène de contagion, ou soit la théorie crène du capital social, le capital qui relie ou le capital qui unit avec un aspect positif et négatif. Celui qui unit peut amener au communautarisme, celui qui relie est celui sur lequel il faut s'appuyer. Et l'on voit bien que ce qui est assez fascinant dans ce que l'on est en train de vivre, c'est que dans les entreprises, ils ont parfaitement compris, on est en train de travailler sur les valeurs immatérielles des entreprises. C'est-à-dire qu'on essaie de regarder au-delà des actifs financiers, qu'est-ce qui fait la valeur d'une entreprise ? C'est son potentiel de recherche ? C'est l'épanouissement de ses salariés, c'est la cohésion de l'entreprise, c'est le sens que l'on donne à l'action collective, etc., etc., etc. Et l'on voit bien que sur les territoires, il va falloir aussi réfléchir au fait que si nous rentrons dans une société de l'intelligence et de l'innovation, c'est peut-être le moment ou jamais de revoir nos politiques publiques. Si nous acceptons le principe que nous sommes dans cette société de l'innovation et de la recherche, et de l'intelligence, pardon, tout ce qui va sur la recherche, la remise en cause, est un élément de progression. Or, le décalage qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas une entreprise qui, à chaque seconde, ne se pose pas la question de savoir ce qu'elle doit remettre en cause pour augmenter son fonctionnement, quand la sphère politico-administrative ne cesse de réfléchir à chaque seconde qu'est-ce qu'il faut que je protège pour ne pas avoir de changement. Que le monde de l'entreprise est en permanence en train de se challenger par l'intelligence. Et dans le monde politique, quand quelqu'un est intelligent, il devient un concurrent dangereux. Et l'on s'aperçoit que cette obsession de la gestion du pouvoir dans les sphères publiques par rapport à la qualité et à l'adhésion des citoyens va devenir un enjeu déterminant parce que, bien évidemment, aujourd'hui, il y a moyen de contourner le pouvoir. Et que nous sommes encore dans l'illusion que quand il n'y a pas d'apparence disruptive de violence, la société va bien. Or, aujourd'hui, nous avons mis en place des systèmes d'exclusion sur le plan scolaire, sur le plan économique, sur le plan du logement. Et un certain nombre de nos concitoyens n'ont plus les capacités de satisfaire les besoins élémentaires du vivre, de se loger, de se nourrir. Esther Duflo, que l'on avait reçue, qui était la conseillère d'Obama au Conseil économique, social et environnemental, nous avait dit cette phrase absolument terrible : on ne défend les valeurs de la République que quand on a le ventre plein. Difficile d'écouter un discours moralisateur quand l'huissier est à la porte, quand on n'a pas de quoi soigner son enfant et quand le frigidaire est vide. Et on voit bien que c'est assez fascinant parce que dans ce monde de l'intelligence et de l'innovation, l'inversion culturelle qui fait que dans l'école, à l'éducation, il ne s'agit pas de remplir la tête de connaissances, on a trop de connaissances. Il s'agit d'éveiller les consciences. Il ne s'agit pas d'avoir un travail personnel sanctionné par des résultats, il s'agit d'avoir un travail collectif basé sur des objectifs. Il ne s'agit pas de valoriser les échecs, mais de valoriser les talents. Car nos enfants aujourd'hui ont un problème de mésestime de soi et de quête d'identité. Et l'on voit que c'est un problème difficile, parce qu'en fin de compte, ça a pour conséquence de déstabiliser le pouvoir par rapport à la tranquillité d'un long fleuve tranquille dans lequel on évite toutes les vagues. Mais en même temps, ça crée une énergie créative, imaginative absolument extraordinaire. Et donc demain, vous aurez des explosions de forums citoyens, de coopératives citoyennes, de conseils économiques locaux, qui n'est pas une contestation du pouvoir, qui est une volonté de chacun de s'approprier la capacité de co-construire un futur. Et dans le numérique, quand on donne au peuple le moyen d'être intelligent, il est intelligent. Et c'est quelque chose d'assez fascinant parce que quand vous regardez, par exemple, sur les politiques de l'enfance, dans lesquelles les conseils généraux sont très impliqués, on a eu un grand débat sur les écoles maternelles à 3 ans. Le vrai sujet, c'est que personne ne parle de 0 à 5 ans. 80% des fondamentaux du caractère se construisent entre 0 et 5 ans. Et Boris Cyrulnik a très clairement maintenant montré les conséquences en matière, on arrive à lire les zones du cerveau, qu'entre les 3 derniers mois de la grossesse et la première année, stade verbal de l'enfant où il découvre l'autre, si l'enfant est dans un milieu affectif, sécurisant, positif, il développe assez naturellement les capacités empathiques. S'il est dans un milieu insécurisant, addictif, violent, il peut perdre ses qualités empathiques, allant jusqu'à éventuellement l'autisme social. Et donc on voit bien que toute la problématique des politiques publiques ne va plus essayer d'assurer le confort d'un collectif en demandant aux citoyens d'obéir, c'est comment faire en sorte de valoriser tous les talents et donc de passer d'un système d'intégration, qui est une responsabilité individuelle, t'es exclu, tu dois rentrer dans le système, à un système d'inclusion, quelle est ma responsabilité collective pour permettre à quelqu'un de revenir dans le système alors qu'il en est exclu. Comment faire en sorte de ne plus éveiller les connaissances uniquement, ou de remplir les têtes, mais de remplir les cœurs et les consciences, c'est un sujet majeur, parce que le défi de demain, est-ce qu'on est en train de rencontrer un esclavage moderne ? D'hommes et de femmes qui, par le défaut d'esprit critique, vont tous préférer une rumeur infondée mais qui correspondra à la satisfaction de leur peur plutôt qu'une vérité scientifique appuyée sur des conseils scientifiques. Or, comme toutes les décisions publiques concerneront des intérêts généraux qui mettront en cause des intérêts particuliers, vous voyez bien que demain, vous risquez d'être frappé de manipulations alimentées par des peurs et des incrédulités parce que, tout simplement, nous aurons fait en sorte d'avoir des citoyens basés sur des constructions émotives et non pas sur des convictions. Et l'on voit bien que dans cet aspect, il y a d'autres événements, et je terminerai simplement là-dessus parce que je vois que le temps tourne, c'est qu'en réalité, la disparition des frontières doit complètement inverser notre culture car nous sommes au bord de rupture. Ma conviction, c'est que nous allons être dans une rupture du marché financier. L'indice PEER, Price Earning Ratio, est à 27, autant que les subprimes. Nous sommes au bord d'une rupture de dislocation sociale. Nous sommes aussi au bord d'un certain nombre de ruptures, dont celle-ci, c'est-à-dire que au XIXe siècle, la philosophie globale était la race supérieure qui a amené le nazisme et le nationalisme. Nous sommes aujourd'hui en train de voir émerger des identités religieuses et des identités socio-spatiales. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'on n'est plus citoyen de la ville de Nice. Mais je suis de tel quartier de la ville de Nice. Et que l'on voit bien la logique d'aller vouloir toucher des citoyens de ce quartier avec des fonctionnaires ou des élus qui viendront de la mairie centrale, seront reçus comme des étrangers. Et qu'il va falloir trouver des personnes endogènes, des personnes inspirantes, qui assurent la confiance. Car quand on est exclu d'un système, on a une formidable suspicion à l'égard des gens qui gèrent le système. Et comme nous sommes au bord d'une rupture de nos pactes collectifs, si on n'y prend pas garde, et c'est à mon avis une vraie réflexion, car cette socialisation se passera par les territoires, c'est qu'est-ce qui va faire société demain ? Et l'on voit bien que c'est un choix de société majeur. Merkel s'y dit souvent, on n'est pas toujours d'accord avec elle, mais elle dit l'Europe c'est 6% de la population mondiale, c'est 20% du PIB, c'est 50% des transferts sociaux. Si la mécanique est aujourd'hui dans la performance, la rupture génomique fait que demain, pourquoi je paierai un contrat collectif de sécurité sociale alors que moi on m'assure que je serai centenaire sans problème, pourquoi je paierai plus cher pour un type qui aura la sclérose en plaques à 40 ans ? C'est la rupture générationnelle. Pourquoi voulez-vous qu'en tant que jeune, je paye la retraite dont je ne vais jamais bénéficier ? Et pourquoi, etc., etc., etc. Et donc, si on ne retrouve pas le sens du collectif, le sens de l'impôt, quelle chance j'ai de pouvoir participer au financement d'une politique de sécurité sociale qui fait que, milliardaire ou clochard, mon AVC sera traité avec les meilleures techniques. Si on ne retrouve pas ce chemin de la citoyenneté, c'est-à-dire à rebours d'une théorie politique qui consiste à dire que pour séduire des électeurs, il faut leur faire en sorte qu'ils ne payent pas l'impôt, en réalité, on perd un électeur et on perd un citoyen. Et à partir du moment où on a laissé nos concitoyens devenir des consommateurs de la République, je ne veux pas que le prof soit bon, je veux qu'il mette 20 à mon gamin, eh bien, monsieur le maire, pourquoi ce ne serait pas la cantine gratuite ? J'ai compris, il fallait que j'arrête. Et donc, je terminerai simplement pour vous dire qu'en réalité, ce qui est fascinant, c'est comment construire des espérances nouvelles. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment où nos sociétés ont perdu le champ des espérances collectives. Les politiques apparaissent plus comme des porteurs de pouvoir, de conquête de pouvoir, que pouvoir à service d'un projet. Eh bien, il y a la gestion des peurs. Et les deux partis républicains sont aujourd'hui sur un champ réduit d'espérance qui a disparu, et Marine Le Pen sur un champ de gestion des peurs qui augmente. Et donc, vous avez un formidable boulevard. C'est comment reconstruire des espérances par la proximité, par l'affectivité, par l'accompagnement. Et si chacun se sent respecté dans sa dignité, dans son identité, eh bien, à ce moment-là, il peut peut-être retrouver un chemin d'espérance individuelle, car il n'y aura pas d'espérance collective sur une désespérance individuelle. Et donc, vous, sur les territoires, vous allez être un lieu d'imagination, un lieu de créativité. Le numérique fait que chacun des citoyens peut avoir, et ne croyez pas, le service public sera dans l'iPhone. Qui aujourd'hui va encore déclarer ses feuilles d'impôt au Trésor public ? Donc on est dans un moment où le collectif, la SNCF, vous envoie un message individuel pour savoir si votre train arrive en retard ou pas. Et votre propriété individuelle deviendra collective. Votre voiture, vous voulez la partager. Donc nous sommes dans des moments fascinants où, de grâce, faites en sorte de casser cet esprit des Français qui tournent le dos au siècle des Lumières et qui considèrent que le progrès est un facteur de risque et non pas un facteur d'opportunité. Et en même temps, il faut former vos élus à faire en sorte qu'il ne peut pas y avoir d'élèves heureux sur des professeurs malheureux, qu'il ne peut pas y avoir de justiciables malheureux sur des juges malheureux, et qu'il va falloir se poser quand même la question de savoir pourquoi je ne cesse de voir autant de jeunes s'engager dans l'éducation nationale et 15 ans après être complètement écœurés, devenir juge, etc., etc. Et donc, le management, le fait que vous n'aurez pas beaucoup de sous, mais la question, on aura tous moins de sous. La vraie question, ce n'est pas avoir plus de sous, c'est comment être plus heureux avec moins de sous. Et donc, on va passer d'une société de la performance à la société du partage, de la société du bien à la société du lien. Et tout compte fait, c'est peut-être ça. Au moment où on a besoin de régulation publique, c'est comment retrouver la notion de confiance, de prise que de risque, de droit à l'erreur pour le fonctionnaire. Car aujourd'hui, nous sommes dans un système complètement neutralisant qui fait qu'on vous demande d'être plus inventif, mais de ne pas vous casser la figure, d'être plus créatif, mais de ne pas faire d'erreur, de mettre de l'argent dans l'investissement, mais de ne pas en perdre. Et donc, il y a un phénomène de culture totalement innovant. Mais le challenge, la concurrence des territoires, fait que demain, il va y avoir une émulation territoriale dans laquelle ce sera, en fin de compte, la différence de votre intelligence créative qui fera tout le charme de ces analyses. Bon après-midi à tous.
Merci, monsieur de Beauvoir.